Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la Presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Issidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Il s'agit du bilan des inondations au Niger, dressé par le Comité national de prévention et de gestion des inondations la semaine dernière. À suivre dans le Forum de la Presse de ce soir, dans un point de presse animé lundi 21 octobre, l'adjointe au procureur de la République, Hadiza Malam Manzo, a saisi l'occasion pour attirer l'attention de la population sur l'importance de porter secours à son prochain. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 au Niger. Pour analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna.
Bonsoir Mokhtar.
Abba Thiari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi.
Bonsoir Mokhtar.
Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye.
Bonsoir Mokhtar.
À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le Forum de la Presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Le Niger est en deuil avec le décès hier de Hamma Amadou, un politique nigérien, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre du Niger. Abba Thiari Arimi, votre mot.
Oui, c'est un des plus grands hommes politiques nigériens qui vient de s'éteindre. C'est vraiment le lieu de lui rendre hommage. C'est un homme politique qui a gravi, je dirais, tous les échelons d'abord de l'administration nigérienne. Il était douanier, il était à la présidence avec le président Kounché, il était ministre de la communication d'ailleurs, puis il était représentant de son parti à la conférence nationale souveraine, il était premier ministre, il était plusieurs fois,
il était DG à l'ORTN,
il était président de l'Assemblée nationale, c'est le dernier poste qu'il a occupé dans notre pays. C'est un parcours vraiment emblématique, un parcours qui ne saurait marquer l'histoire moderne de notre pays. Là, on vient de perdre un leader charismatique, un leader, un homme politique exemplaire parce que soutenu souvent pour ce qu'il est, pas même pour les idées et autres, non, pour ce qu'il est. Il a pu drainer du monde, vraiment, du début de la démocratie, de la période démocratique dans notre pays à ce jour. Il y a qui ne répondent que de lui et des simples citoyens de partout dans notre pays. C'est vraiment avec tristesse que nous avons appris sa disparition, mais ainsi va la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel et que nous qui restons les rejoignons vraiment dans de très bonnes conditions.
Amin. Merci beaucoup Abba Thiari Arimi. Maimouna Diado, allez-y.
Oui, c'est vraiment une grande perte pour le peuple nigérien et sa famille aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hamma Amadou fait partie des figures emblématiques du Niger. Il a, comme l'a si bien dit Arimi, occupé plusieurs postes de responsabilité dans ce pays. Il a su dresser le Niger à un moment où le Niger se trouvait dans des difficultés. Il était un homme d'État, un visionnaire. Celui qui a servi Kounché ne pourrait être qu'un visionnaire pour ce pays-là. Il avait l'amour de son pays. Tout ce qu'il faisait, il mettait d'abord son pays en avant. Il était, en fait, certes, c'est vrai, sa disparition, ça fait, on l'attendait pas, mais voyons tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, en tout cas, de la prison, il est parti en exil. Il a fait plusieurs années en exil. Il était coupé pratiquement de son pays. Il était pratiquement coupé des affaires politiques de ce pays. Il n'avait pas sa famille à côté de lui et ça aussi, ça pouvait ronger la personnalité dont il était. En fait, il faut dire que le Niger doit rendre à César ce qui lui appartient. Hamma Amadou a lutté pour ce pays, qu'on le veuille ou non. On doit mettre nos querelles, nos divergences politique surtout, de côté, et regardez que c'est vraiment un Nigérien exemplaire, un Nigérien qui, jusqu'à, j'en suis sûr, jusqu'à ce que la mort nous l'a arraché hier, Je suis sûre qu'il avait l'amour encore de sa patrie et que s'il avait la possibilité, il allait faire beaucoup de choses pour ce pays-là. Que son âme repose en paix, Amen. Que Dieu l'accepte, le miséricordieux l'accepte dans son paradis Firdaus et qu'il sert d'exemple, de modèle et d'incarnation à d'autres Nigériens pour qu'on puisse avoir un autre Hammamadou ou bien d'autres Hammamadou, plus que Hammamadou. Parce que en fait, c'est un opposant. Il a montré qu'il est opposant. Il a résisté. Il est resté dans l'opposition. Tant bien que mal, il s'est forcé et il a trouvé son chemin. Qu'il repose en paix.
Amin. Merci beaucoup, Memouni Gado. Ablaye Soumana, rapidement.
Oui, Mokhtar. Nous venons de perdre un grand homme, un digne fils du Niger et même de l'Afrique. Hammamadou, c'est un parcours atypique. Il est d'une grande stature, il est d'un charisme incontestable et incontesté. Hammamadou, tout le temps qu'il a eu à servir ce pays, il l'a servi avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie pour que ce Niger et les Nigériens vivent en paix, vivent en harmonie, dans la cohésion des fils et des filles retrouvés. Hammamadou a connu des soubresauts politiques. Mes prédécesseurs l'ont rappelé. Il a connu la prison, il a connu l'exil, mais néanmoins, c'est de l'exil même qu'il a appris, comme nous autres également, les événements du 26 juillet 2023. Et il s'est prêté, n'est-ce pas, à des confrères de là-bas même, n'est-ce pas, pour apprécier, n'est-ce pas, ce que les militaires du CNSP ont eu à faire pour le bonheur du peuple nigérien, parce que il a salué, n'est-ce pas, la spontanéité avec laquelle le peuple nigérien s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir, n'est-ce pas, le CNSP. Que son âme repose en paix, que Dieu, dans son infinie bonté, l'accueille dans son paradis éternel et que nous autres qui restons, n'est-ce pas, qu'il nous donne une bonne fin et que le Niger qu'il chérissait tant, que ce Niger-là soit un Niger où il fait bon vivre, où c'est la communion de cœur et des esprits, un havre de paix. Amin souma amin.
Merci beaucoup à tous. Sur tout un autre plan, le Comité national de prévention et de gestion des inondations s'est réuni la semaine dernière pour discuter d'une part des secours aux sinistrés et des préparatifs de la rentrée scolaire. D'autre part, à la date du 16 octobre 2024, le nombre de personnes sinistrées est estimé à environ 1 million et demi, dont plus de 90% ont été assistés sur fonds propres de l'État. Le dispositif national via la cellule crise alimentaire et l'Office national des produits vivriers du Niger, OPVN, ont soutenu près de 200 000 ménages et d'autres appuis sont en cours de traitement. Memouna Diado, les inondations de 2024 ont non seulement causé des pertes en vies humaines tragiques, mais également a eu des répercussions économiques importantes. Comment ces inondations ont-elles affecté le Niger?
Mokhtar, ces inondations, on n'a même pas besoin de poser la question. Il suffit de faire le tour, même ici à Niamey, on a vu des maisons effondrées, on a vu des pertes en vies humaines, on a vu des champs, les cultures de riz qui sont parties,
les rizières,
les champs, tout. On a vu des écoles, pratiquement des jardins qui aujourd'hui n'existent même pas. Il faut encore essayer de les faire revivre. Donc, ça veut dire que quand on regarde même dans l'intérieur du pays, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas une région qui n'a pas été affectée par les inondations cette année pour 2024. Et il n'y a pas les cultures qui n'ont pas été affectées par ces inondations. Parce que c'est arrivé au moment où les champs de mille, où les agriculteurs ont déjà sémé, et que les milles étaient déjà au stade finition. Donc, il y a eu tout cela. Donc, ça ne peut que toucher l'économie du Niger et également ce que vous avez dit tout à l'heure, les productions, donc les produits vivriers et autres. Mais moi, je pense que d'un côté aussi, il y a quand même des régions qui ont tiré satisfaction donc de ces pluies-là. Et maintenant, ce qu'il faut peut-être...
Oui, mais Maimouna Diallo, à présent, comment assister toutes ces victimes-là?
Mais les victimes-là, c'est d'abord essayer de voir la campagne agricole. Dans les régions où, par exemple, la campagne a été abondante, bonne, peut-être c'est et de mettre un mécanisme pour que les récoltes, que l'OPVN, que l'État rachète ces productions.
Ah, le surplus.
Oui, le surplus pour pouvoir distribuer ou bien faire la vente à prix modéré pour ces sinistrés-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut également essayer de voir? Essayer, l'État peut également, avec les moyens qu'il a, apporter la nourriture ou bien commander de la nourriture.
Oui, mais il y a aussi la culture de contre-saison qu'il fallait un peu encourager dans les zones déficitaires.
Mais est-ce que la culture de contre-saison seule ne peut pas suffire? C'est ça le problème. Donc, il faut une alimentation de base. Donc, l'alimentation de base,
c'est le riz, le mil, le maïs.
C'est ça l'alimentation de base. La culture de contre saison, ça vient en renfort. Ça veut dire que c'est quand tu as déjà ton ventre plein que tu penses déjà à manger, croquer quelque chose. Donc là, c'est juste que l'État doit penser à acheter le surplus là, des récoltes là, avec les paysans et empêcher déjà, puisqu'il y a déjà une ordonnance qui empêche à ce que les
L'exportation des produits vivriers.
De ces produits vivriers dans d'autres pays. Donc je pense que ça pourra arranger un peu, ne serait-ce que soutenir ces familles-là pendant un bout de temps, pendant une période jusqu'à la après la soudure, quoi.
Merci beaucoup, Maimouna Diallo. Abakari Arimi, au regard du bilan enregistré, les inondations de cette année sont de loin les plus catastrophiques des 20 dernières années, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. Que faire dans le court, moyen et long terme?
Merci, parce que pour moi, ce qui est passé est relativement passé. Oui, il faut effectuer la rentrée, donc il faut évacuer les écoles, il faut trouver des abris à ceux qui ont été éprouvés et tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire vraiment à court, moyen et terme?
À long terme.
Et à long terme, c'est ça la question. À court terme, il faut vraiment assister du point de vue abri. Des maisons qui sont effondrées, n'est-ce pas? L'État doit pouvoir soutenir les sinistrés, n'est-ce pas, à reconstruire leurs maisons.
C'est ce qui justifie la baisse du prix sur la tonne?
Oui, je suis entièrement d'accord que c'est une mesure qui accompagne la survenue de ces malheureux événements. Mais vous le savez, même à 55 000 la tonne, c'est encore cher pour 80% des Nigériens. Parce que, les gens sont dans des maisons qu'ils ont construites sur des décennies, parfois sur des siècles, parce que c'est des maisons héritées de père en fils, en grand-père, ainsi de suite. Mais toujours est-il que c'est une mesure appréciable, cette mesure de réduction du coût de la tonne du ciment. Mais ce matin seulement, sur une radio internationale, j'écoutais comment l'État en Europe, c'est un pays européen, ça doit être au Portugal, comment l'État est en train d'aider les populations qui ont été, c'est en Italie, étaient victimes d'incendies, parce que vous savez, l'Italie, c'est un des pays les plus affectés par les incendies.
L'effet de brousse.
Voilà, et donc des villages même ont été détruits, et l'État est en train de restaurer des immeubles entiers pour que les populations, après un an, parce que ça fait un an que ces incendies sont survenus, donc l'État doit être en mesure de faire ça. Ce n'est pas trop pour des citoyens nigériens qui ont été victimes réellement de ces choses-là. S'il faut accompagner avec du ciment parce que ça a coûté cher, tant mieux.
Ça, c'est
à court terme. À moyen terme, vous le savez, c'est bientôt, hein. Là, la saison de pluie est terminée, mais nous sommes déjà en octobre, n'est-ce pas? Et les premières pluies, généralement, n'est-ce pas, en tout cas depuis ces dernières années, particulièrement cette année, à partir du mois de mai, ça commence. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Et à ce niveau, l'État doit vraiment reconstituer son stock d'assistance Parce que, vous le savez, tous les pays au monde ont leur crise, leur des événements de ce genre qui surviennent chaque année. Aux États-Unis, vous voyez que chaque année, il y a des ouragans qui viennent et qui emportent vraiment des villages entiers, des quartiers entiers. Mais souvent, il n'y a pas de perte en vie humaine. Pourquoi ? Parce que il y a de la prévention. On sait quand est-ce que ça peut venir, 24 heures, 12 heures à l'avance. Et l'État se donne les moyens d'évacuer les populations pour les mettre à l'abri. Donc, reconstituer les moyens d'intervention vraiment à la survenue de ces événements, ça c'est une activité essentielle que l'État doit pouvoir...
À moyen terme.
À long terme. Maintenant, à long terme.
Mm-hmm. Rapidement.
On le souhaite, parce qu'on ne souhaite pas la destruction de nos maisons, les inondations et tout, mais l'eau, c'est ce qui nous a toujours manqué. Si nous devons avoir ça, selon les prévisions météorologiques, mais des scientifiques, sur 10 ans, nous le souhaitons. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Et on doit avoir les moyens d'apprivoiser cette eau-là. Ah. N'est-ce pas ? De localité, je suis en train de voir l'inondation et encore d'actualité dans des villages, dans des villes comme Filingué. N'est-ce pas ? L'État, à long terme, pas à très long terme d'ailleurs, doit créer les conditions de pouvoir reconduire, canaliser cette eau-là.
Vers des barrages ou des mini-barrages.
Voilà, en tout cas, de récupérer cette eau pour que les populations puissent travailler autour. Pour que nos animaux puissent boire, pour qu'on puisse faire des cultures de contre-saison, pour qu'on puisse faire de la pisciculture autour. Ça, c'est entre autres activités qu'on peut. Maintenant, je suis souvent surpris quand on dit l'État a fait ça avec 90%, mais c'est ça que ça doit être. Ça n'a jamais été le cas. C'est le cas maintenant et ça ne doit être que comme ça. Tout, c'est le rôle régalien de l'État d'assister ses citoyens. Que les autres ne viennent pas, ce n'est pas notre problème. C'est parce que les autres viennent parce que l'État a failli quelque part. Et donc, prochainement, il faut que ça soit à 100% fait par l'État du Niger.
Merci beaucoup, Abakar Harimi. Ablaye Soumana. Le scénario 2024 basé sur le plan de contingence sur les inondations 2023-2025 prévoyait qu'environ 247 000 personnes, soit un peu plus de 35 000 ménages, pourraient être touchés. Comment prévenir ce genre de catastrophes naturelles ici au Niger?
Oui, cette année a été une année particulière. Les prévisions l'ont dit, hein. Et l'année allait être vraiment très pluvieuse et même tardive. Sûrement, ça a surpris parce que le plan de contingence de
2023-2025
qui prévoit près de 247 000
personnes.
Et cette fois-ci, ça a quintuplé plus de millions. Vous comprenez, donc les besoins vont être énormes. Il faut les rechercher. Aujourd'hui, on peut peut-être se réjouir du fait que l'État sur surplomb pompe que a eu à porter assistance et secours à près de à hauteur de 90%, n'est-ce pas, donc des sinistrés. Alors, cette situation fait en sorte que, pour rejoindre un peu ce que Harimi vient de dire, de prévoir la question, n'est-ce pas, ce que l'État doit faire à court et à moyen et à long terme. La question, elle est là. À partir de cette année, on a vu que les inondations étaient très, 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 très...
ont durablement affecté les populations nigériennes.
Vraiment, hein, il faut le dire. Hein, et il faut penser à ce que aujourd'hui même, l'État doit commencer à prendre des dispositions pour préparer l'hivernage à venir, l'hivernage prochain, que peut-être qui sera même encore précoce. Vous conviendrez avec moi. Alors, les conséquences sont légion. On a vu les effondrements des salles de classe, on a vu l'effondrement des ponts, etc., etc. On a également noté un peu une certaine épidémie de choléra dans plusieurs régions du pays.
Tawa,
Zender, Maradi, Agadez et Diffa. Donc, tout ce qui va, n'est-ce pas, encore aggraver un peu la situation déjà précaire des citoyens, des populations déjà affecté.
Merci beaucoup à vous trois, chers auditeurs, internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On a servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangoum. Vu la récurrence de la criminalité des actes de violence à Niamey et dans certaines villes du Niger, l'adjointe au procureur de la République, dans un point de presse animé lundi à Niamey, attire l'attention des populations sur l'importance de porter secours à son prochain. Et cela fait suite à l'interpellation des personnes auteurs du meurtre d'une jeune femme au quartier Madina à Niamey. Hadiza Malam Manzo, dans des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale RTN.
Oublions la loi qui dit que la non-assistance à personne en danger est une infraction. Tant que c'est lui qui va assister, ne met pas lui-même sa vie automatiquement en danger. Mais nous sommes des musulmans et nous vivons dans une commune. Nous en appelons à la fibre de solidarité de nos concitoyens. Vous voyez quelqu'un dans une situation, vous ne réagissez pas. Peut-être demain, ça sera vous dans la même situation. Donc, nous appelons à nos concitoyens de faire un effort pour porter assistance ou au moins appeler au secours. Parce que c'est vraiment aberrant que dès la journée, des gens se font agresser et qu'ils ne trouvent aucun secours. En outre, il est important d'attirer l'attention sur le voisinage. C'est de faire très attention et surtout bien veiller sur la sécurité de son propre foyer et les enfants aussi faire attention qui on envoie et à quelle heure où on peut l'envoyer.
Retour dans ce studio, Abachari Arimi. Le parquet de Niamey a réagi dans la matinée le lundi 21 octobre 2024 par rapport à la prouesse de la police nationale à travers la direction de la police judiciaire. Que peut-on retenir au sujet de cette sortie médiatique de l'adjointe au procureur?
Je suis un peu ravi qu'une autorité s'adresse à la population de cette manière. Mais vous savez, tout a une histoire. Et on est dans un environnement où aujourd'hui...
Tout a une histoire, concrètement
les agressions à domicile.
La criminalité dans les grands centres urbains du Niger.
On peut t'agresser, y compris chez toi. Il semblerait que si tu blesses l'agresseur, c'est toi qui vas répondre devant la justice pour avoir blessé quelqu'un. Mais si c'est le cas, aujourd'hui... Au village, on sait que dès que tu cries, tout le monde sort. Mais aujourd'hui, à Niamey, particulièrement, tu cries, chacun ferme sa porte à double tour pour ne pas sortir d'abord se faire agresser. Parce que lui, l'agresseur se défend.
Mais est-ce que ça,
Il est toujours armé.
Oui.
Et tu sors, vous le blessez pour l'arrêter, en tout cas pour lui empêcher de porter atteinte à l'intégrité physique, souvent de la famille agressée. Après, vous l'amenez même à la police, c'est à vous de le soigner. Ou même s'il arrive qu'il meure, vous êtes aussi accusé d'assassinat. Donc les gens, face à quelqu'un qui est autant protégé par la loi, c'est vrai, tout le monde doit être protégé par la loi, mais comment faire? Parce que vous le savez, ces gens-là, ils sont non seulement armés, mais aussi ils sont en mesure d'organiser des représailles. C'est-à-dire aujourd'hui, ils font une agression dans le quartier, des individus à visage découvert sortent pour les arrêter, ils peuvent revenir.
Vous voulez dire que l'État lui-même est faible devant ce dilemme?
Non, il n'est pas faible, c'est peut-être l'application de la loi, mais chacun a besoin de protection. Le voleur, par exemple, on dit même s'il tombe sur toi, si tu le blesses selon la nature de la blessure, si par exemple tu le blesses au dos, on dit que non, il est en train de fuir, mais tu l'as attaqué et tu l'as blessé, donc tu dois le soigner et peut-être même tu dois le dédommager. Or, tu as été attaqué chez toi. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut plutôt... Nous, on a une compréhension certainement légère de la chose, mais il faut sortir pour dire à la population que vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit, y compris... Parce que quelqu'un qui est armé, si toi, tu n'es pas armé, regardez le cas de cette dame-là. Il semblerait qu'il y a une de ses voisines qui était présente, n'est-ce pas? Mais si elle crie, c'est elle qui sera peut-être égorgée. Si elle ose dénoncer, n'est-ce pas? C'est peut-être qu'ils vont revenir encore. Tout ça là, de quelle protection elle va bénéficier? Donc c'est ça le problème qui se pose réellement en ville. Dans des coins comme le Grand Marché, il semble que les commerçants ne peuvent même pas dénoncer quelqu'un qu'ils voient en train de voler, parce que sinon c'est à lui, le commerçant, qu'ils vont s'en prendre après. Donc ce sont ces choses-là aussi qu'il faut essayer de résoudre. Sinon, au village, même pour rattraper un voleur qui est parti avec un troupeau, c'est tout le village qui se rassemble, organise la chasse,
la poursuite.
Ou la poursuite, et rattrape parfois le voleur, ou ramène au moins le bétail volé. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aussi... L'état de droit a ses conséquences. Malheureusement, il n'y a que l'autorité qui peut intervenir et vraiment régler ce problème-là. Parce que c'est compliqué. Moi, je suis sûr qu'il y a des cas où des gens se sont pris à attaquer à un voleur qui a agressé leur voisin, mais qui ont des problèmes. Donc, c'est aussi ça le problème. Sinon, l'assistance à personne en danger. Tous les jours, je vois les enfants aujourd'hui, aucune fille étudiante ou lycéenne qui prend le bus de 4h ou de 5h du matin ne peut aller seule. Chacun se fait accompagner par un, deux garçons de sa famille pour aller jusqu'au bus. Parce que c'est le seul moyen d'arriver d'abord à l'école à l'heure, et c'est plus sécurisé que les taxis, parce qu'avec les taxis aussi, on sait des derniers temps ce qui arrive. Donc c'est des problèmes sérieux. Vraiment, il faut peut-être avoir des trucs de vigilance dans les quartiers, vraiment trouver les moyens de régler ce problème-là. Sinon, l'insécurité est une réalité, la non-assistance est une réalité, et donc vraiment... appeler la population à réagir, mais dans quelles conditions, il faut lui expliquer.
Merci beaucoup, Abakari Arimi Abdoulaye Soumana. La non-assistance à personne en danger consiste à s'abstenir de porter secours à quelqu'un qui est en détresse. Ce comportement est-il nouveau au Niger? Si oui, comment l'expliquer?
Bon, non-assistance à personne en danger, à personne qui est en détresse, je crois que ce comportement paraît un peu nouveau, étant donné qu'aujourd'hui, quand on porte secours à quelqu'un, peut-être, si je prends l'exemple, un accidenté, on le prend, l'amène à l'hôpital, on va te dire, les médecins ne le regardent même pas, vous comprenez? Certains restent les bras croisés, ils disent il faut appeler les sapeurs-pompiers, il ne faut pas toucher l'accidenté, vous comprenez? Pour revenir un peu à ce que, bon, peut-être que la non-assistance à personne en danger a également des problèmes à celui-là qui va vouloir apporter assistance à aux victimes. Comprenez avec moi qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ce qui fait que la sortie médiatique de la procureure adjointe du parquet de Niamey, elle est à saluer à juste titre, parce qu'aujourd'hui, il faut privilégier un peu la sensibilisation, la communication, pour que les citoyens soient éveillés et conscients de ce qu'aujourd'hui, ils peuvent apporter assistance. Nous sommes des musulmans, c'est vrai, c'est la moindre des choses, nous sommes des frères, il faut cultiver la fraternité, la solidarité, mais il ne faudrait pas qu'en retour, n'est-ce pas, que nous soyons victimes de cette volonté de vouloir apporter assistance à quelqu'un qui est en danger. Vous aurez vu sur les réseaux sociaux, sûrement, même la police, je crois, a eu affaire à montrer ces images-là de la dame là, qui a été agressée.
En plein jour
où sa sacoche a été arrachée. Et que pendant ce temps, des citoyens passaient allègrement, tranquillement, sans pouvoir voler à son secours. Donc, sûrement, c'est parce qu'ils craignent qu'eux aussi, qu'une fois identifiés, qu'ils soient la cible prochaine, n'est-ce pas, donc de ces bandits, de ces bandits, ou bien qu'eux-mêmes, qu'aujourd'hui, qu'ils soient, n'est-ce pas, et dans les mailles, peut-être qu'eux-mêmes, qu'on pourrait même les assimiler à des complices, n'est-ce pas, donc de ces bandits. Vous voyez, ce qui fait que porter assistance à personne, c'est une légitimité, c'est de bonne guerre, c'est légitime, mais comment il faut le faire? Et ce n'est pas dans n'importe quelle situation et dans quelles conditions également. Parce que quelqu'un qui est en train de mourir dans le fleuve et que vous êtes là, vous le voyez, vous ne savez pas nager, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien quelqu'un qui est en train de brûler, qui est en train d'être calciné dans un incendie à plusieurs niveaux d'étage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui fait que les professionnels sont là, les sapeurs-pompiers, peut-être même c'est leur métier, avec leur devise qui est là, sauver ou périr, peut-être qu'eux, ils vont, au péril même de leur vie, ils vont vouloir sauver les vies en danger.
Merci beaucoup, Abdoulaye Soumana. Memouna Gadon, la personne en danger est celle qui fait face à un péril grave et imminent. Ce péril menace sa vie ou son intégrité physique doit être connue des personnes susceptibles d'être accusées de non-assistance à personne en danger. Quelle est votre opinion au sujet de la non-assistance à personne en danger?
Mais Mokhtar, je ne peux que rejoindre ce que mes deux autres collègues, confrères ont dit sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, à Niamey, il n'est pas... En tout cas, il y a des jeunes, des femmes qui se font agresser. Chaque jour, qui se font arracher leur sac et devant des gens qui ne peuvent même pas daigner porter secours à ces femmes-là. Des fois, c'est dans même les quartiers. Des fois, c'est des gens où vous vous connaissez. Des fois, c'est des jeunes qui sont en moto avec des coupes-coupes, avec des armes blanches. Et au vu et au su de tout le monde, on te prend ton sac. Ils prennent même un malin plaisir de te menacer même devant tout le monde. Donc, il y a ici aujourd'hui des quartiers où je suis sûre, des quartiers où à partir de 18h, 19h, tu ne peux pas te hasarder à aller dans ces quartiers-là. Et que dans ces quartiers-là, ceux qui vivent dans ces quartiers-là savent à quel moment il y a l'insécurité dans ce quartier-là. Je ne peux pas dire que c'est un tel quartier, mais tout le monde connaît les quartiers à Niamey où tu ne peux pas mettre pied.
Oui, mais Maïmouna Yadou, que faire pour trouver une réponse adéquate à cette préoccupation?
Mais adéquate à cette préoccupation, c'est que les petits voleurs-là, ceux qui sont en train d'agresser les gens, qu'on fasse tomber, en tout cas, cette situation où il faut les protéger. Non, quelqu'un qui est en face de toi, qui te menace avec une arme blanche, et que tu prends position, que Dieu te donne la possibilité d'avoir gain de cause sur lui, et que demain, tu te présentes, même pas demain, tu te présentes tout de suite avec la police là-bas, là, on te demande pourquoi tu l'as agressé, pourquoi tu l'as frappé, pourquoi tu lui as fait saigner. Mais est-ce que demain, quelqu'un va pouvoir t'aider quand tu es en face de cette situation?
Selon vous, il faut revoir la loi.
Il faut revoir la loi. Il faut revoir la loi pour permettre et puis sensibiliser. Oui, oui, l'agression à domicile, quand quelqu'un te trouve chez toi, là, tu dois te défendre. C'est soit lui ou toi. Parce que s'il il ait raison sur toi, mais est-ce que tu auras le temps pour aller porter plainte? Parce que tu seras déjà enterré. Et puis, mais lui,
bien.
Il sera parti avec ton bien. Et est-ce qu'il va partir seulement avec ton bien? Parce qu'aujourd'hui, avec la situation de la femme là qui a été égorgée, s'il vous plaît, à Niamey, égorgée dans
plein
sa
jour.
Propre, plein jour dans sa propre maison. Et qu'on dise que c'est des voisins même. Ça veut dire qu'ici, là, ça interpelle tout le monde. Il faut savoir, même dans le voisinage, là, qui avec qui tu dois être voisin. C'est très important. Ce n'est pas que tu dois peut-être savoir tout de lui, mais quand même tu dois connaître l'aspect, un petit aspect sur lui. Aujourd'hui, c'est des blanchisseurs. Aujourd'hui, c'est des gens qui font les chap-chap, qui ont fini avec la vie de cette femme-là. Mais pourquoi? Donc, ça veut dire qu'ici, il faut revoir la loi. Pour permettre au moins quand l'agresseur te trouve chez toi, que tu puisses avoir en tout cas gain de cause sur lui.
Merci pour vos points de vue.
Et raison sur lui.
Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Au Niger, la rentrée scolaire censée avoir lieu le 2 octobre a été reportée au 28 octobre. La rentrée scolaire 2024-2025 est placée sous le thème « Souveraineté et citoyenneté retrouvée ». Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales met en exergue les avancées réalisées lors de l'année écoulée, notamment la réouverture d'écoles dans des zones touchées par l'insécurité et la restauration du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD. Selon les autorités nigériennes, ces initiatives ont permis d'améliorer l'accès à l'éducation, la qualité des enseignements et la gouvernance du secteur éducatif. Ablaye Soumana, Cette année, un accent particulier est mis sur le renforcement de l'enseignement de l'éducation civique et morale ECM pour promouvoir les valeurs de citoyenneté, de patriotisme et de culture de l'excellence au sein des écoles. Cela est-il nécessaire selon vous?
Oui, bien sûr que cela est nécessaire. L'instruction civique et morale faisait partie intégrante du programme. Nous, quand on était à l'école primaire, il y avait, n'est-ce pas, cette matière-là. Et ça permet de forger un citoyen modèle, un patriote. Et si, du point de vue des réformes, on a eu à mettre fin pendant plus d'une décennie au certificat d'études primaires, l'examen, n'est-ce pas? L'année dernière, après des réflexions d'un certain comité qui a été mis en place à cet effet, a jugé utile de ramener, n'est-ce pas, l'examen. Or, l'examen, vous conviendrez avec moi, c'est quand même la somme de plusieurs années d'acquisition, n'est-ce pas, de connaissances qu'on essaie d'apprécier en quelques jours, notamment pour le CEPD, c'est 2 jours et demi. Alors,
rapidement,
le candidat, c'est par rapport à...
On a vu la réouverture des écoles dans certaines zones d'insécurité.
Oui, oui, ça c'est à saluer, étant donné qu'on a eu à connaître dans un passé très, très récent que beaucoup d'établissements scolaires ont fermé à l'intérieur du pays, notamment à cause de l'insécurité, quand on prend la zone des trois frontières vers Tilaberi, vers Difa, etc.
Une partie d'Ottawa
également, où l'insécurité a vraiment sévi dangereusement. Donc c'est à saluer. Mais est-ce à dire que, bon, c'est déjà des avancées notables qui pourraient dire que, bon, l'école est en train de retrouver ses lettres de noblesse? Oui, l'école pourrait être en train de retrouver ses lettres de noblesse, étant donné qu'on a vu des examens qui ont été organisés à bonne date. On a vu une année scolaire qui était stable. Mais pour cette année, qu'est-ce qu'il faut peut-être envisager? On dit que les dispositions sont prises pour que la rentrée soit effective, la rentrée du 28 du lundi prochain. Ça, c'est les autorités de l'éducation nationale qui le disent. Est-ce que toutes les conditions sont réunies du point de vue de l'autre côté de ceux-là qui sont censés donner, transmettre la connaissance, à savoir les enseignants? Wait and see. Toutefois, ce sur quoi il faut quand même insister, c'est que les syndicats du secteur de l'éducation ont commencé, n'est-ce pas,
à se faire entendre. Merci beaucoup, Ablaye Soumana Memouna Diado. La réparation des infrastructures endommagées, la désinfection des salles de classe inondées ou occupés par les sinistrés, ainsi que la mise en place des équipements nécessaires dans les ateliers de formation technique sont également des priorités. Le gouvernement de transition a-t-il les moyens nécessaires aujourd'hui pour faire face à toutes ces difficultés?
Tu me poses une question où la réponse est un peu... Les moyens...
On a vu des camions acheminer des fournitures scolaires.
Le Niger, le gouvernement doit avoir les moyens. Doit avoir les moyens de sa politique quand même, éducative. Donc, c'est-à-dire que quand on dit une rentrée, je l'ai toujours dit, c'est pas seulement uniquement le ministère de l'Éducation qui doit grouiller pour qu'il y ait une bonne rentrée scolaire au Niger. Ça fait partie aussi d'autres prérogatives de certains ministères. Par exemple, le ministère des Transports, le ministère des Finances. C'est totalement tout le gouvernement est concerné par la reprise, en tout cas, de l'école. Ça veut dire que les infrastructures, ils ont les moyens de construire d'autres infrastructures.
Et ils l'ont fait à travers beaucoup de communes.
Voilà. Et ils ont également les moyens de leur politique pour pouvoir arranger ce qu'il faut arranger dans les classes qui manquent de tables bancs ou autres. Mais le problème, ce n'est pas dans les communes. Le problème, c'est également...
Dans les villages reculés.
C'est dans les villages reculés qu'il y a ces problèmes-là. Les problèmes-là, il y a des villages...
Là où il y a des hangars à construire.
Il y a des villages où jusqu'à présent, à la veille même de cette rentrée scolaire, j'en suis sûr qu'il n'y a pas de hangar pour les élèves. C'est-à-dire que la construction des classes, même si c'est des classes en paillotte, n'ont pas été jusque-là, en tout cas, construites. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vu.
Rapidement.
Donc, maintenant, on ne peut pas dire que les moyens manquent à l'État. Parce que, je l'ai toujours dit, une rentrée scolaire se prépare non pas la veille, mais on prend le temps en une année de planifier la prochaine rentrée scolaire pour voir les insuffisances, où il faut améliorer. Et vous avez vu les catastrophes naturelles. L'État ne s'est pas dit que peut-être cette année, il y aura tellement d'inondations qui allaient mettre endommager beaucoup d'écoles. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation et je suis sûr que, comme ils ont annoncé la rentrée scolaire le 28, ils vont le faire, mais peut-être petit à petit, ils vont pouvoir arranger certaines infrastructures.
Merci beaucoup, Mamouna Diallo. Abakar Animi, pour la rentrée 2024-2025, le ministère prévoit le redéploiement rapide des enseignants et la distribution anticipée de manuels et fournitures scolaires afin de garantir un démarrage sans retard des cours. Quels sont les autres défis qui attendent les autorités nigériennes au sujet d'une bonne rentrée scolaire ici au Niger?
Écoutez, j'ai cru avoir vu, même pour aujourd'hui, une rencontre entre les responsables du ministère de l'Éducation et les syndicats, les différents syndicats du secteur de l'éducation, à l'IFEAMF, si je ne m'abuse aujourd'hui. Voilà, donc, et ça c'est pour parler certainement de salaire, n'est-ce pas, du retard de paiement chez les contractuels, des avancements et autres qui semblent qu'ils n'ont pas bougé depuis 2014. Et donc là, on peut dire que le CNSP en fait a hérité d'une situation, mais l'État c'est une continuité. On ne peut pas dire que non, c'est pas nous qui avons, non, il faut payer et il faut leur faire des promesses fermes pour que à ce niveau-là ça bouge. Parce que quoi qu'on dise, l'enseignant reste la pièce maîtresse de l'école. C'est-à-dire, si tu négliges l'enseignant, tu n'auras pas une école de qualité, ça c'est sûr. Mais aussi, peut-être que les occupants des classes ont quitté, mais il y a des écoles qui sont, semble-t-il, encore inondées et dans des zones comme Filingué, là où l'eau est venue, ce n'est même pas l'eau qui a plu sur place, mais c'est des eaux qui sont venues d'ailleurs, qui ont inondé toute la ville. Là aussi, il va falloir dégager ces eaux-là, n'est-ce pas? Donc moi, je pense que la rentrée ne peut être effective qu'une fois ces problèmes-là résolus. Maintenant...
Oui. Quelles sont les attentes des acteurs du système éducatif au Niger rapidement?
Oui, il y a plein d'acteurs, plein de soucis, des avancements et autres là qu'il faut régler. Ça, c'est une triste réalité et je pense qu'ils ont raison, les syndicalistes. En plus de ça, le privé, le ministre, quand elle est venue, la ministre, elle a pris des engagements pour harmoniser les coûts de la scolarité dans les...
Parce qu'il faut pas... Un comité a même été mis en place pour réfléchir.
Mais on n'a jamais vu le résultat de ces réflexions-là. Et il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le privé, particulièrement dans les gros centres comme Niamey, n'est-ce pas, font que résorbe, aide l'État en réalité. Parce que chaque père de famille, chaque mère, en tout cas chef de famille, prend en charge... Normalement, ça revient à l'État d'éduquer les enfants. Mais chacun se débrouille pour faire ça de sa poche. Mais donc, pour faciliter ça et permettre à l'État de bénéficier de cet appui-là qui n'est pas très visible, donc il faut régler aussi ce problème des écoles privées. J'ai entendu la dernière fois en Mauritanie, ils ont carrément enlevé l'aspect privé au primaire. Il n'y a plus d'école privée primaire.
On peut faire la même chose au Niger.
Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est l'État qui décide là. C'est la souveraineté, hein.
Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Mamouna Diallo, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci à la technique assurée par Seni Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.